Bienvenue, nouvelle étoile. Tu as l'air en pleine forme ce soir.
Merci, vieille étoile. J'ai travaillé sur ma luminosité.
Bon travail. C'est une soirée idéale pour se mettre en valeur.
Pourquoi ?
Parce que c'est Noël.
Youpi, c'est quoi Noël ?
Tu ne connais pas Noël ? Oh, c'est vrai, tu es une toute nouvelle étoile. C'est ton tout premier Noël.
Oui, c'est aussi votre premier Noël.
Oh, non, j'en ai vu plus de 2000.
Wow, 2000, c'est beaucoup.
C'est vrai. En fait, je suis même assez vieille pour te parler du tout premier Noël. Et je peux t'expliquer pourquoi nous le célébrons encore aujourd'hui après toutes ces années.
Oh, s'il te plaît, je veux tout savoir.
D'accord. Pour commencer, nous devons retourner avant le premier Noël et visiter un petit endroit appelé Nazareth.
Est-ce que Nazareth est un endroit dans le ciel ? Tu sais, dans l'espace ?
Non, c'est un endroit sur Terre, sur cette petite planète.
Tu veux dire celle qui se trouve là-bas, près de Jupiter ?
Non, celle qui est un peu plus à droite.
Tu veux parler de Pluton ? Je ne pensais pas que c'était encore une planète.
À droite. À droite, à droite, à droite, à droite, encore. Voilà. Exactement.
Tu veux dire la petite bleue et verte, entre Mars et Vénus ?
Exactement. Et regarde là-bas, c'est la ville de Nazareth.
Oh, qui est cette jolie dame ?
C'est Marie. C'est une jeune fille, vierge, et elle est fiancée avec un homme qui s'appelle Joseph. Joseph est charpentier, et c'est également un homme juste.
Qu'est-ce qu'il fait ?
Oh, il construit quelque chose. Les charpentiers construisent toujours quelque chose.
J'espère que c'est un berceau.
Oh, je crois que tu prends de l'avance sur notre histoire.
C'est qui, lui ? Il est tout brillant, comme nous.
C'est Gabriel. Mais lui, c'est un ange. Il est venu parler à Marie. Écoute.
Je te salue, toi qui es bénie. Le Seigneur est avec toi. N'aie pas peur. Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu seras enceinte, tu donneras naissance à un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut.
Comment est-ce possible puisque je suis vierge ?
L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ainsi, le Saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Même Élisabeth, ta parente, va avoir un enfant dans sa vieillesse. Et celle que l'on disait stérile en est à son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu.
Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
L'ange a dit à Marie qu'elle allait avoir un enfant, qui sera le fils de Dieu.
Et qu'est-ce que Marie a dit ?
Elle a dit oui.
Oh, eh bien, maintenant, j'aime bien Marie, elle a l'air très gentille.
Elle l'est. Après que l'ange l'ait quittée, Marie s'est dépêchée de rendre visite à sa cousine, Élisabeth.
Élisabeth ! Marie !
Quand Marie est arrivée, elle a découvert que les choses étaient exactement comme l'ange lui avait dit.
Marie semble vraiment heureuse de voir Élisabeth. Dire qu'Élisabeth allait avoir un enfant dans sa vieillesse, c'est un miracle.
Oui, Marie n'était pas la seule à être heureuse. Élisabeth l'était également. Écoute ce que dit Marie, ce qu'elle dit à Marie.
Tu es bénie entre toutes les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Mais pourquoi je suis si favorisée que la mère de mon Seigneur vienne à moi ?
Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il s'est soucié de son humble servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint.
Marie est restée avec Élisabeth pour une longue visite, puis elle est retournée chez elle à Nazareth. Mais à ce moment-là, il était évident qu'elle allait avoir un bébé.
Oh oh, qu'a dit Joseph ?
Eh bien, Joseph savait que le bébé n'était pas le sien. Mais comme Joseph était un homme juste, il décida de rompre discrètement. Après qu'il eut réfléchi à tout cela, Dieu envoya un ange lui parler dans un rêve.
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car ce qui est conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés.
Tout cela s'est fait en accomplissement de l'ancienne prophétie. La Vierge concevra et donnera naissance à un fils et elle l'appellera Emmanuel. Et le nom Emmanuel signifie « Dieu avec nous ».
Wow, c'est un beau prénom! Qu'a fait Joseph quand il s'est réveillé?
Il a fait ce que l'ange lui avait dit de faire.
D'accord. Alors, que s'est-il passé ensuite?
Ensuite, il y a eu un petit drame à Rome. César Auguste, le souverain romain, avait ordonné que tout le monde soit compté.
Pourquoi fait-il cela?
Pour une question d'impôt, peu importe ce que c'est. Mais pour être censé, tout le monde devait retourner dans la ville natale de sa famille.
C'est un peu comme une réunion de famille.
Un peu, mais sans les jeux de société, ni la salade de pommes de terre.
Oh, c'est dommage, j'adore les salades de pommes de terre. Est-ce qu'ils avaient des cookies? J'adore les cookies.
Je ne pense pas non plus.
Alors, ce n'était pas vraiment une réunion de famille.
Non, en fait, pour Marie et Joseph, le voyage a été assez long et difficile. D'autant plus que Marie attendait un bébé.
Où devait-il aller?
Ils sont allés dans une petite ville appelée Bethléem.
Tu parles de cette petite ville au plein milieu de nulle part?
C'est celle-là. C'est là qu'est né l'ancêtre de Joseph, le roi David.
Attends un peu. Bethléem, ce n'est pas celle qu'ils chantent. Celle qu'ils appellent « Ô petite ville de Bethléem ».
Si.
J'aime beaucoup cette chanson. Ils chantent même que les étoiles silencieuses passent.
Écoute, je crois qu'ils vont maintenant la chanter.
Petite ville Bethléem, tu dors tranquillement. Sur ton sommeil, l'étoile d'or se lève au firmament. Sa lumière éternelle nous apporte la joie. Se trouve en toi, car Jésus de Marie est tandis que tout dort, les anges là-haut assemblés chantent le doux accord, proclamez sa naissance. Étoile du matin, apportant la paix et l'amour, voici l'enfant divin, à qui il fut donné simplement ce présent merveilleux.
Sur le premier Noël, quand est-ce qu'on arrive à la partie avec l'arbre et l'étoile?
Il n'y avait pas de sapin lors du premier Noël, mais il y avait une étoile.
Où ?
Nous allons la voir plus tard. Mais nous devons d'abord en savoir un petit peu plus sur Marie et Joseph.
D'accord.
Joseph est donc allé à Bethléem pour se faire recenser et Marie l'a accompagné.
Regarde, Marie et Joseph sont arrivés à Bethléem. J'espère qu'ils ont un endroit agréable où rester. Marie a l'air très fatiguée.
Elle l'est, mais il n'y a pas de place pour eux à l'auberge. Alors, Marie et Joseph sont restés dans une étable.
Une étable ? Tu veux dire, comme pour les chèvres, les vaches, les chevaux, les cochons ?
Oui, tout ça. Marie et Joseph sont restés dans une humble étable. C'est là que Marie a eu son bébé. Elle l'a enveloppé dans des langes et l'a déposé dans une mangeoire.
Pourquoi ont-ils mis le bébé dans une mangeoire ?
Oh, c'était probablement le lieu le plus sûr et le mieux pour lui. Je suis sûre que Joseph l'a garni de foin frais et neuf et a veillé sur Marie toute la nuit.
Comment ont-ils appelé le bébé ?
Ils l'ont appelé Jésus, ce qui signifie « l'Éternel sauve ». Et maintenant, pour la première fois dans le ciel, il y avait une nouvelle étoile qui annonçait la naissance du Messie.
Regarde, je crois qu'ils vont encore chanter.
Ils font ça souvent à Noël, tu finiras par t'y habituer.
Nous avons vu l'étoile et nous venons vers toi. Nous avons vu l'étoile, elle a guidé nos pas. Comme les mages arrivent, s'inclinent devant toi. Je viens pour déposer tous ces cadeaux remplis de foi. Nous avons vu l'étoile et nous venons vers toi. Nous avons vu l'étoile. Comme les mages arrivent, s'inclinent devant toi. Je viens pour déposer tous ces cadeaux remplis de foi. Nous avons vu l'étoile et nous venons vers toi. Nous avons vu l'étoile, elle a guidé nos pas. Comme les mages repartent pour annoncer la joie. Je viens de recevoir un vrai trésor au fond de moi. Nous avons vu l'étoile et nous venons vers toi. Nous avons vu l'étoile et la guidé nos pas.
Wow, c'était une très belle chanson. Tu réalises une nouvelle étoile dans le ciel. Comme c'est merveilleux, quelle gloire! Personne sur Terre n'a pu manquer cela.
Il est étonnant que non seulement les gens aient manqué le Messie à l'époque, mais qu'ils le manquent encore aujourd'hui. C'est peut-être parce qu'ils ne cherchent pas vraiment le Messie. Mais Dieu ne s'est pas contenté d'une seule étoile pour annoncer la naissance de son Fils. Il a aussi envoyé un ange pour l'annoncer à un groupe de bergers. Bien sûr, les bêtes du berger ont été très effrayées de voir soudainement un ange.
N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche.
Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant
« Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix aux hommes sur qui repose sa faveur. »
Lorsque les anges furent partis pour aller au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres
qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître.
Ils partirent donc en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et l'enfant qui était couché dans une mangeoire. Quand ils eurent vu Jésus, ils répandirent la nouvelle de ce qui leur avait été dit au sujet de l'enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que les bergers leur racontaient. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui avait été annoncé.
Voilà donc l'histoire du premier Noël et de l'étoile.
Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes relit ce chant mélodieux.
Ce sont trois rois mages, mais ils peuvent nous le dire eux-mêmes.
De rien, nous sommes trois rois mages.
Porteurs de cadeaux, le monde nous parcourons.
Champs et fontaines, landes et montagnes, l'étoile nous suivons.
Pause. Qu'est-ce qu'ils disent ?
C'est une vieille chanson qui parle des trois rois mages. Ils disent qu'ils sont trois rois de l'Est et qu'ils ont fait un long voyage pour venir ici.
Oh, j'ai compris. Et ils ont vu la nouvelle étoile, et ils l'ont suivie, parce qu'ils étaient assez sages pour savoir ce que cela signifiait, que le Sauveur était né.
C'est vrai. Écoute, je crois qu'ils vont chanter à ce sujet.
De bon matin, j'ai rencontré le train. Thank you. voix conduit par un chemin devant une pauvre étoile. Lui et les rois conduits par nos chemins devant l'âme réduit au Fils de Dieu qui naquit en ce lieu. Ils viennent tous présenter leurs hommages au Fils de Dieu qui naquit en ce lieu. Ils viennent tous présenter leurs douves. De beaux présents emmirés en sang, ils vont offrir au maître tant admirable. De beaux présents emmirés en sang, ils vont offrir au bienheureux enfant.
Oh, j'aime bien les rois mages. Et regarde, ils ont apporté des cadeaux. Pour qui sont-ils?
Les cadeaux sont pour l'enfant Jésus. Ce sont de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or, parce que Jésus est roi. L'encens, parce qu'il est le grand prêtre. Et la myrrhe, parce qu'il s'est sacrifié.
Et où vont-ils? Bethléem est là-bas. Et les gars, vous allez dans la mauvaise direction, le bébé est là-bas.
Ils vont à Jérusalem, au palais, pour chercher le roi des Juifs.
Mais pourquoi le bébé est à Bethléem, là-bas? Il est né dans une étable.
Ils sont allés chercher l'enfant roi dans un palais, mais ils ne l'ont pas trouvé.
Qui ont-ils trouvé?
Malheureusement, ils ont rencontré un homme méchant nommé Hérode, qui était le chef local.
Roi des Juifs, où est celui qui est né?
À l'est, nous avons vu son étoile. L'adorons, nous sommes venus.
Quand Hérode entendit tout cela, il fut très affligé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua les grands prêtres et les professeurs de la loi, et leur demanda où devait naître le Messie. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qu'a écrit le prophète.
Mais toi, Bethléem, dans le pays de Juda, je n'ai certes pas la moindre entre les villes principales de Juda, mais car toi sortira un chef qui sera berger d'Israël, mon peuple.
Allez à Bethléem, cherchez l'enfant. Dès que vous l'aurez trouvé, venez me le dire afin que je vienne aussi l'adorer.
Les trois rois, mages, se mirent en route. Et l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précéda jusqu'à ce qu'elle s'arrête au-dessus de l'endroit où était né l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils furent saisis de joie. Arrivés à la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et ils l'adorèrent. Ils lui donnèrent leurs cadeaux, puis s'en retournèrent dans leur pays. Mais ayant été avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer chez eux.
Pourquoi ne sont-ils pas retournés voir Hérode?
Parce qu'Hérode ne voulait pas vraiment adorer Jésus. Il voulait le détruire.
C'est horrible!
C'est vrai.
Qu'est-il arrivé à l'enfant Jésus?
Un ange a été envoyé pour avertir Joseph, dans un rêve, d'emmener sa famille en Égypte, où ils seraient en sécurité. Ils se sont échappés la nuit avant qu'Hérode ne les trouve.
C'est merveilleux! L'histoire est-elle finie?
Il y a un peu plus. Lorsque le retour a été possible, l'enfant Jésus et sa famille sont retournés à Nazareth, où il a été élevé. Jésus était le Fils de Dieu et il accomplit toutes les choses qui avaient été prophétisées à son sujet. Il a vécu une vie parfaite et mort sur une croix pour tous les péchés et est ressuscité pour vivre éternellement. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père et un jour, il viendra juger le monde.
C'est incroyable! L'histoire est-elle finie?
Pas tout à fait. Et je sais tout cela car j'ai tout vu de là-haut dans le ciel. Car vois-tu, je suis la nouvelle étoile qui est apparue cette nuit-là.
Vraiment? Tu es la nouvelle étoile? Mais tu es si vieille.
L'histoire aussi est vieille de plus de 2000 ans. Mais elle est toujours vraie aujourd'hui, qu'elle l'était lors de ce premier Noël. Et c'est pourquoi nous célébrons encore Noël aujourd'hui.
C'est incroyable! Merci de m'avoir raconté tout cela. Je pense que je vais briller un peu plus maintenant que je sais cette histoire.
Tu sais ce qu'a dit le roi David. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde.
Oui, bien dit. Est-ce que c'est le même roi David ?
Oui, le roi David, l'ancêtre de Joseph, celui qui est né à Bethléem il y a bien longtemps.
J'aime bien ce type, il sait vraiment manier les mots. Ok, alors, et maintenant ?
On dirait qu'il est temps de chanter une autre chanson.
Et les cookies ? J'adore les cookies.
Oui, oui, c'est bon, allez, on y va.
Si nous regardons autour de nous, en cette période de l'Avent, nous réalisons que nos plus anciennes traditions de Noël ont trait à différents types de lumières. Les lumières sur les arbres, celles dans nos foyers, les bougies sur les tables. Le mois de décembre se pare de lumière pour illuminer les longues nuits d'hiver. Dans les magasins, nous sommes même agressés par toutes ces lumières. Alors, pourquoi, et ça c'est une question que j'ai pour les enfants aujourd'hui, pourquoi tant de traditions lumineuses à Noël ? Est-ce que vous avez des idées ? Parce que le 24 décembre, c'était aussi la fête des lumières, d'accord ? Jésus, il est né, c'est éblouissant, oui ? Jésus a dit qu'il était la lumière du monde. Il y a d'autres... Je ne vous vois pas bien, donc je ne sais pas s'il y a d'autres idées. Ben, on entend, en fait, souvent autour de la période de Noël que Jésus est la lumière du monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Alors, j'aimerais vous proposer un petit moment de réflexion là autour sur la lumière et le lien avec Jésus et notre vie. Alors, en préparant ce moment de méditation, je me suis aperçue que dès le premier jour de la création, Dieu a créé la lumière et il vit que la lumière était bonne. Et quand on y pense, sans lumière, ben, il n'y a pas de vie. Rien ne pousse. La lumière a été créée en premier car elle a permis à la vie de prendre forme à travers les plantes, les animaux et enfin l'homme. Et Dieu savait que son peuple avait besoin de lumière pour naviguer dans la vie, que ses promesses, que ses mises en garde, ses 10 commandements ne suffiraient pas pour que son peuple puisse cheminer, mais que ce peuple avait besoin de lui au plus proche dans son quotidien. Alors il s'est fait homme pour venir nous guider, nous éclairer sur le chemin. C'est même annoncé dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9, au premier verset. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Et un peu plus loin au verset 5, un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Et à la fin du verset 6, voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. Dieu veut offrir sa lumière comme un cadeau de son brûlant amour pour nous. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi des passages qui parlent de la lumière. Dans Jean, chapitre 1, versets 1 à 9. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses. Et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. La parole est la vraie, mais il n'était pas la lumière, il était témoin de la lumière. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. Et un peu plus loin, au verset 14, la parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Donc en lisant ce texte, en fait, on constate plusieurs choses. Premièrement, la parole, c'est Jésus. Puisque la parole est devenue homme qui a habité parmi nous. Et puis la parole était là, dès le commencement, avec Dieu. Et puisqu'on a vu au premier point que Jésus est la parole, on sait que Jésus est avec Dieu depuis le commencement. On apprend aussi qu'en la parole, et donc en Jésus, il y a la vie et il y a la lumière. Le texte dit même que la parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. Et puis on apprend que Jean est témoin de la lumière. Alors pourquoi, maintenant, encore une question, pourquoi est-ce que Jésus est comparé à la lumière? Qu'est-ce que vous en pensez? Des idées? Parce qu'il nous guide comme une lumière. D'autres idées? Alors, ben oui, en fait, c'est brillant, une lumière. Ça illumine autour de soi. Ça rend l'obscur visible. Ça apporte de la chaleur. Et puis, ça guide. Et puis, au temps de la Bible, l'électricité n'existait pas. Et donc, j'imagine que quand il faisait noir, il faisait vraiment nuit noire, très sombre. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vécu une fois, mais être dans le noir le plus total, il y a quelque chose d'assez angoissant. On perd tous ses repères. Et puis, il suffit d'allumer une toute petite lumière dans cette obscurité pour rendre ce noir un peu moins oppressant. Et en fait, plus il fait sombre, plus la lumière allumée semble brillante. Alors Jésus est donc cette lumière dans l'obscurité de nos vies. Et au cas où ça n'était pas assez clair pour nous, il le dit lui-même, il l'affirme dans l'épître de Jean, toujours, mais au chapitre 8, au verset 12. Jésus parle à la foule et il dit « La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. » En le suivant, on ne marche pas dans la nuit, mais on reçoit cette lumière, et pas n'importe laquelle, celle qui donne la vie, celle qui fait germer, grandir, s'épanouir pour ensuite porter du fruit. Je trouve qu'utiliser l'image de Jésus comme lumière, c'est une excellente image pour illustrer l'éclairage qu'il est dans la vie de ceux qui le reconnaissent. Il est comme un phare qui illumine la nuit obscure des marins que nous sommes en quête de côtes pour accoster. Ou comme une bougie qui illumine la nuit de nos vies, cette douce chaleur qui réchauffe dans la froideur de nos journées les plus glaciales. Une douce lumière qui illumine nos coins les plus obscurs. La lumière de Jésus n'est pas une lumière qui éblouit ou qui aveugle, mais une lumière discrète et douce qui éclaire les pas de chacun, des plus démunis aux plus riches, au rythme de chacun. Alors Jésus nous invite à le recevoir, lui, dans nos vies, en croyant tout simplement à lui, en croyant qu'il est né pour nous, qu'il a vécu pour nous et qu'il est mort pour nous. Amour brûlant du Père. Il nous rappelle qu'il faut croire en lui pour ne pas rester dans la nuit, croire en lui pour recevoir cette lumière, la vraie. Recevoir la lumière de Jésus, c'est recevoir ce conseiller merveilleux, ce Dieu fort, ce Père pour toujours et ce Prince de paix dans notre vie, grâce à l'amour brûlant de notre Seigneur, promis dans Ésaïe. Rien que ça. Et l'histoire pourrait s'arrêter là, mais non, parce qu'en fait, une fois que nous avons reçu sa lumière, c'est-à-dire accepté que Jésus est lumière dans notre vie, eh ben nous devenons à notre tour lumineux. Dieu, dans sa grande beauté et bonté, veut offrir aux hommes, par Jésus, une vie éclairée par son amour, afin d'éclairer autour de nous. Alors non seulement nous ne restons pas dans la nuit, mais il rayonne à travers nous. Dieu a choisi d'avoir besoin de nous pour briller de son amour dans l'obscurité de notre monde. Alors, comment faire concrètement pour que Jésus soit ma lumière, notre lumière? Premièrement, c'est admettre que Jésus est la seule et vraie lumière dans notre vie. Et ensuite, il devient une priorité et nous pouvons accorder nos choix en fonction de cette priorité. Puis, c'est en nous rapprochant de lui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces objets. J'ai une étoile ici. C'est une étoile un peu phosphorescente. Et en fait, quand on la rapproche d'une source lumineuse, eh bien, elle se met à briller. Mais pour briller, il faut être tout près de la source de lumière. Enfin, on ne voit pas beaucoup, mais voilà. En fait, j'aime cette image parce que je nous vois un peu comme ces objets incandescents qui reprennent de la lueur en la présence de Jésus, c'est-à-dire qu'en s'approchant tout près de lui, on peut reprendre l'énergie nécessaire pour briller à notre tour. Et puis si on s'éloigne, eh bien, on peut briller un moment, mais au bout d'un moment, la lueur, elle faiblit. Et ce n'est qu'en revenant à la source de lumière qu'on peut briller, la vraie lumière. Alors concrètement, d'accord, s'approcher de Jésus, oui, mais puisqu'il n'est plus physiquement là, comment on fait? Alors je vous propose 3 points. Premièrement, c'est en l'intégrant dans notre vie, par la prière, le dialogue avec lui. C'est en lisant sa parole. D'ailleurs, dans un verset des psaumes, chapitre 119, verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Ce n'est pas écrit « Ta parole est une lumière sur mon autoroute », ni un phare, ni un spot. C'est une lumière, une lampe. C'est tout petit, ça accompagne chaque pas. Lire la parole de Dieu éclaire notre chemin, nos vies. Et puis troisièmement, c'est en vivant la communauté, c'est-à-dire en s'entourant de gens qui peuvent nous encourager et que nous pouvons aussi encourager. Et si nous faisons cela, nous reflétons la lumière de Jésus. Nous devenons phosphorescents. Donc en ce troisième dimanche de l'Avent, la bougie allumée qui a été allumée dans les foyers représente la joie. Et je pense que ce qui fait la joie de Noël, c'est bien cette lumière qui nous est donnée. Jésus Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec moi. Quand nous nous souhaitons joyeux Noël, nous pourrions nous dire aussi joyeuse lumière. Car Noël, c'est accueillir la lumière de Dieu dans nos vies, dans notre foi, dans nos relations, aux autres et dans notre société. Alors pour conclure, Jésus dit qu'il est la lumière du monde, la vraie, qu'en croyant en lui, sa lumière entre en nous et nous devenons lumière du monde à notre tour. Il n'a pas dit qu'il fallait être brillant pour le suivre, mais c'est d'abord une question de choix. Malgré mes circonstances de vie, la noirceur du chemin sur lequel je me trouve, Jésus dit simplement « Suis-moi ». Vais-je accepter cette invitation? Et j'aimerais encore vous partager quelque chose. J'anime des camps d'enfants et j'aime faire une animation avec des jeunes. Certains l'ont d'ailleurs vécu, certains dans cette salle, où je mets des petites lumières sur un chemin dehors, dans la nuit. C'est le mois d'octobre, il fait frais. Et puis on propose aux enfants de faire ce parcours de chemin lumineux. Ils sont tout seuls. Et donc, voilà, on part du foyer où tout le monde est réuni, et chacun chemine. Et en fait, le parcours, il est construit de manière à ce qu'on voit seulement la lumière qui va venir. Et parfois, la vie avec Jésus, c'est ça, ou la vie tout court, c'est qu'en fait, on ne voit pas trop où on va. On aimerait bien avoir le chemin, on aimerait bien savoir où on va arriver, mais on est appelé à faire un pas à la fois. Et en faisant ce pas à la fois, Et en regardant en arrière, on peut voir le chemin parcouru qui est semé de lumière. Et donc, je vous laisse ça ce soir, que cette lumière, je vous la souhaite, devienne la vôtre, qu'elle soit en vous et que vous puissiez briller comme ces étoiles phosphorescentes. Amen. On va chanter une chanson qui parle de lumière. Et pendant ce moment, il y a l'offrande qui va passer. Qu'est-ce que c'est l'offrande ? C'est un geste qu'on peut faire pour, ce sera pour l'église, pour faire participer les activités. Sentez-vous libre ou non de donner un petit quelque chose. J'aimerais encore vous partager un tout petit texte qui a été écrit par Mère Teresa comme une prière pour clore. C'est Noël chaque fois que vous souriez à votre frère et lui tendez la main. Chaque fois que vous vous taisez pour écouter quelqu'un. Chaque fois que vous tournez le dos aux préjugés qui relèguent les opprimés aux confins de leur isolement. Chaque fois que vous espérez avec les prisonniers, ceux qui sont chargés du poids de la pauvreté, physique, morale ou spirituelle, chaque fois que vous reconnaissez avec humilité vos limites et votre faiblesse, C'est Noël, chaque fois que vous permettez à Dieu d'aimer les autres à travers vous. Prions Dieu qu'à Noël, nous puissions accueillir Jésus, non dans la froide mangeoire de notre cœur, mais dans un cœur plein d'amour et d'humilité, animé par la chaleur de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ça, c'était de la part de Mère Teresa. Et je termine. Resplendissez, vous qui êtes chacun et chacune des êtres de vie appelés à briller pour les autres. Puisse la magnifique lumière de cette période de fête nous rappeler celui qui est la source de toute lumière, la source de notre vie. Amen.
Allô? Ah oui. Alors j'aimerais demander les moniteurs de l'école de dimanche de monter avec moi sur scène, car nous aimerions donner un petit cadeau, d'honorer nos enfants, pas juste les nôtres, mais tous ceux qui sont dans la salle, et leur donner un petit quelque chose. Alors dès que mes moniteurs sont là, c'est tout bon. Nicolas, il arrive, parfait. Et après, le panier... Il devrait aussi arriver. Il arrive. Voilà.
Un grand merci les enfants, un grand merci aux moniteurs et aussi à Rebecca pour tout le travail qui a été fait. Merci, merci. N'hésitez pas tout à l'heure à aller les voir et à les féliciter. Je crois qu'ils ont vraiment fait un super travail. On est très fiers de vous. Quelques annonces avant le goûter, le dessert. Ah oui, il faut que j'aille, pardon, il faut pas que je me balade aujourd'hui. Quelques petites annonces. La première qui est peut-être la plus importante de tous. Les enfants, attendez un petit peu avec les sachets, sinon on va entendre que les sachets. Il y a encore un buffet de dessert, n'oubliez pas. La première annonce, c'est de vous dire que voilà, aujourd'hui on a entendu différentes choses. On a entendu parler de Jésus, bien sûr, en tant que chrétien. C'est lui qu'on célèbre à Noël. On a entendu parler de lumière aussi. Et peut-être que vous êtes là en visite, peut-être que vous avez été invité aujourd'hui, et puis que ce que vous avez entendu, ça vous touche d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ça vous réjouit, peut-être que ça vous intrigue, peut-être que ça vous énerve, je ne sais pas. Il peut y avoir toutes sortes de réactions au message de l'Évangile. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire que nous sommes, en tant qu'Église, disponibles pour vous. Si vous avez envie d'en parler avec quelqu'un, si vous avez envie de prier, venez, n'hésitez pas. Il y a des opportunités comme ça dans la vie qu'on rencontre de temps en temps. Il y a des étapes qui peuvent être un point de bascule dans nos vies. J'espère, peut-être vous en avez déjà vécu. Parfois c'est dramatique, mais parfois c'est aussi joyeux. quelque chose qui se passe dans notre vie et le cours de notre vie change. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, c'est un jour comme ça. Alors, je vous encourage, si vous avez été marqué d'une manière ou d'une autre par ce que vous avez entendu, n'en restez pas là. Rapprochez-vous de cette lumière. Vous avez vu, il faut rester proche de la lumière. Eh bien, faites-le. Allez-y, ça vaut le coup. Nous en sommes témoins. Aussi vous dire que mardi soir, à 20h15, nous aurons un temps de prière, une réunion de prière, ici même, une réunion de prière spéciale Noël. Alors voilà, vous êtes tous et toutes les bienvenus pour cela aussi. Dimanche prochain, nous reprenons nos cultes comme d'habitude, le matin à 10h. Donc ne venez pas à 15h et n'espérez pas avoir un deuxième buffet de dessert. Ça sera un petit peu plus classique dimanche prochain. Et puis, je vais encore vous demander une annonce très pratique. Juste là, quand on finira, on va vous demander d'empiler les chaises. On est très nombreux aujourd'hui, ce qui est très réjouissant. Donc on va faire le goûter dans cette salle. Donc on va empiler les chaises et puis il y a quelques personnes qui vont venir avec un chariot et puis les mettre sur le côté. Merci de ne pas tirer les chaises sur le sol, on s'en chargera. Faites simplement des piles de 10 et puis comme ça, ça sera prêt pour mettre en place les tables. Voilà, je vous souhaite déjà en avance un bon appétit. On n'arrivera pas à tenir les enfants plus longtemps de toute façon. Joyeux Noël à ceux qu'on ne reverra pas. Et puis, on se réjouit de vous voir tout à l'heure autour de toutes les bonnes choses qui ont été apportées. À bientôt.
Avec vous, bergers et mages, aux pieds de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre, dit avec nous prosterné, Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. les anges vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous des bonheurs et de grâce couronné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Oh, oh. Avec vous, bergers et mages, aux pieds de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre, dit avec nous prosterné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur.